Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.
La transition énergétique et écologique des entreprises, oui, mais comment ? La parole est aux dirigeants. Tour d'horizon des possibilités à la rencontre de ceux qui la font et la vivent.
Si on veut continuer à vendre des produits, il faut qu'ils soient bons pour l'environnement. Enfin, je pense que là, il n'y a pas de question à se poser.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de podcast. Produire local, mieux utiliser les matières premières et les énergies, lutter contre le gaspillage et recycler ses déchets, les défis de la TEE ne manquent pas pour une PME comme Mulot et Petit Jean qui s'engagent sans compter dans la transition écologique et les enjeux qu'elle soulève. Affirmer son identité, ses valeurs, son héritage et innover, c'est la condition pour aller vers un mode de production responsable, durable et compétitif. En tout cas, c'est possible, comme va nous le prouver notre invitée du jour, Catherine Petitjean. Bonjour Catherine.
Bonjour Laure.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme chacun des podcasts, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, que ce soit vous, votre carrière et votre entreprise.
Très bien, eh bien, je suis Catherine Petitjean, j'ai 61 ans, je suis maman de 4 filles. Après des études de droit, j'ai rejoint l'entreprise familiale en 1987 et j'en ai pris la direction en 1998. Donc Mulot et Petitjean, c'est une entreprise installée à Dijon, où nous fêtons nos 225 ans cette année.
Un bel anniversaire.
Voilà, et nous fabriquons du pain d'épices de Dijon à Dijon. Donc l'enjeu pour moi, ça a été, quand j'ai pris la direction de l'entreprise, de faire entrer Mulot et Petitjean dans la modernité. En ce qui me concerne, j'ai toujours essayé de travailler sur le mieux faire en investissant au fur et à mesure des années. Nous avons d'ailleurs été reconnus entreprise du patrimoine vivant en 2012 et donc j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir un espace muséographique en 2017 où, effectivement, je fais découvrir l'histoire du pain d'épices.
Donc, vous révélez les secrets de fabrication, alors?
C'est ça, les secrets de fabrication du pain d'épices.
En tout cas, oui, effectivement, c'est une tradition, c'est une entreprise familiale de génération en génération. Vous transmettez ce savoir-faire rare et la Bourgogne est fière, j'en suis sûre, de vous avoir à Dijon, Mulot et Petitjean. Alors, comme vous l'avez dit, votre défi quand vous avez repris l'entreprise, c'était d'y amener de la modernité. Alors, je pense que de tenir une entreprise comme celle-ci, c'est un défi de tous les jours. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique et écologique, donc un nouveau défi. Quels sont les grands enjeux pour de la TEE dans votre secteur?
En ce qui me concerne, et je pense que pour le secteur de la biscuiterie aussi, et de la boulangerie, les enjeux, c'est bien sûr la réduction des consommations d'énergie, de l'eau, puisqu'on a des fours, donc ça consomme, la lutte contre les pertes matières, parce que quand on produit, il y a forcément des déchets, la lutte contre le surdosage, et puis bien sûr le gaspillage alimentaire, est arrivé maintenant très prégnant et très présent et difficile. Nos emballages, l'emballage, il sert à protéger le produit et il faut effectivement qu'on lui donne une recyclabilité. Donc, c'est compliqué de changer d'emballage. Déjà, il faut que les machines s'adaptent au changement d'emballage et puis surtout, il faut que ça conserve le produit. Donc là, il y a un vrai enjeu et c'est compliqué à mettre en place. J'ai fait des essais avec des films qui n'étaient pas du tout adaptés à nos produits.
Oui, de toute façon, voilà, vous testez des choses.
On teste, voilà, on est en plein dedans.
Vous, les enjeux, c'est contre le gaspillage alimentaire, sur les emballages, le recyclage. Alors, comment vous matérialisez tout ça concrètement, en fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour lutter contre ça, déjà?
Ce qu'on s'est dit, parce qu'il est intéressant, c'est de voir comment une PME, elle entre dans la démarche, parce que on faisait plein de choses, mais en fait, c'était pas structuré. En fait, on est entré dans un label qui a été développé par la FEF, qui était un label RSE, entrepreneur plus engagé. Ça nous a permis de poser les bases déjà de ce qu'on faisait. Puis on a commencé à évoluer et puis on s'est rendu compte que en matière de plan d'action, on n'était pas très bon. Donc on a structuré un peu notre demande avec une mission avec l'ADEME. On a pu avoir un vrai outil de pilotage et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Et donc on s'est engouffré dans cette démarche RSE, mais effectivement avec tout un plan transition écologique et lutte contre le gaspillage, tout ce dont on a parlé.
Oui.
Et ça nous a permis de structurer notre démarche et d'avoir des actions année par année. En 2020, malgré la crise du Covid, on a maintenu l'acquisition d'un four qui nous permet de diminuer nos consommations d'énergie parce que les fours deviennent vite obsolètes, les temps d'allumage sont moins longs, donc tout ça c'est de la consommation d'énergie en moins. Donc c'est quand même important. Après on a changé d'autres matériels qui nous ont permis d'éviter le surdosage, enfin de réduire, puis également les pertes matières quand on produit. Donc tout ça c'est 2020.
J'ajoute une question à la réponse que vous êtes en train de me donner parce que ce sont des démarches qui ont un coût et qui demandent aussi un peu plus de main-d'œuvre et du recrutement, j'imagine, pour le savoir-faire et pour réfléchir à toute cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous parler en plus de cela du coût de ces démarches sur le plan humain ou financier ?
Alors, sur le plan humain, la démarche, ça impose déjà un investissement fort du patron. Moi, j'ai une réunion une fois par mois avec mes collaborateurs où on baleine un petit peu nos plans d'action et on voit où on avance. Donc ça, c'est vrai que dans l'équipe RSE, il y a 4 personnes dont moi, donc c'est du temps, mais ça permet d'avancer. Sur le budget 2020, on était sur plus d'un million d'euros.
Il y a un vrai changement avec l'année précédente ?
Oui, ça se voit. On n'est pas encore au bout des réglages, donc on n'est pas complètement optimisé, mais ça va arriver. Normalement, en juillet, ça sera réglé. C'est des grosses machines, donc ça nécessite quand même un petit moment d'adaptation, de formation des collaborateurs, voilà.
Donc aujourd'hui, on peut pas encore parler de bénéfices à observer grâce à ces actions, pas encore, c'est trop tôt.
Oh si, mais si on peut bien sûr voir les économies qu'on peut réaliser. En revanche, elle n'est pas au bout de toutes ces économies. Sur le surdosage, vous voyez, on a encore une machine à finaliser, de régler. Mais bon, ça se fait. Ce qui est important, c'est que les choses avancent et qu'elles se fassent. En 2021 et 2022, on va s'attaquer à l'eau parce que pour nous, on rejette de l'eau sucrée, donc c'était un sujet. Donc en 2021, on installe un système de nettoyage à ultrasons qui va nous permettre d'optimiser notre consommation d'eau, d'avoir des agents de nettoyage plus conformes à ce qu'on souhaite aussi. On utilisait des agents de nettoyage qu'on pouvait utiliser, mais bon, vous le savez, il y en a des plus agressifs que d'autres, donc le nettoyage à ultrasons nous permettra de diminuer ses consommations et d'avoir des dérgets moins nocifs, enfin moins perturbants. Et puis, l'année prochaine, on va installer un évapo-concentrateur, c'est un peu compliqué à dire, qui nous permettra de rejeter de l'eau claire et d'envoyer des résidus en méthanisation. Puisque nous, on envoie beaucoup de choses en méthanisation, puisque c'est des déchets sucrés. Donc voilà les projets en cours et à venir. Oui. Et puis, un travail continu sur les emballages, ça c'est un travail de longue haleine.
Et alors, à quel moment vous avez eu cette prise de conscience et vous avez voulu mettre en place tout ça? Qu'est-ce qui a motivé ces démarches?
Moi, ce qui m'a motivée, je pense que c'est une certitude pour moi qu'on pouvait pas continuer à vivre ni à produire comme on produisait. Je pense qu'il faut être, il y a quelque chose de très personnel aussi dans cette conviction. Je pense que j'ai eu beaucoup de choses à faire pour remettre l'entreprise en état de marche. Donc après, il y a un moment où on se dit, qu'est-ce que je peux faire de plus?
Et est-ce que vos équipes se sentent concernées à votre niveau ?
Ah oui, déjà l'équipe proche sur la RSE, je pense que c'est une vraie dynamique. On a tous envie de se sentir utile à la planète.
Ça, c'est sûr.
Voilà. Ensuite, je crois que pour les collaborateurs, on est dans une démarche RSE forte. Donc, on avait fait 2 opérations, dont une sur les déchets. Et puis, comment on peut trier, même chez soi, parce qu'en fait, c'est aussi sensibiliser nos collaborateurs à ce qu'ils peuvent faire chez eux. Comment on consomme moins de chez nous. Et après, c'était comment ils peuvent faire sur leur lieu de travail, en triant mieux, voyez.
Oui, donc il y a une campagne de sensibilisation aussi.
Voilà. Et puis, ce qu'on a mis en place là récemment, c'est que chaque mois, on a fait une newsletter. Donc, une fois par trimestre, on en fait une sur la RSE et notamment sur tout ce qui est transition écologique, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui impacte les collaborateurs parce qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi.
Oui.
Personne n'a envie de travailler pour une entreprise
qui n'est pas éthique.
Qui n'est pas éthique, je crois. Voilà.
On est bien d'accord.
Je dis toujours que le consommateur, il achètera demain un produit de qualité fabriqué par une entreprise responsable.
Oui. On tend vers cette mentalité-là, bien sûr.
Voilà. Et je pense que nos collaborateurs, ils ont envie de travailler pour des entreprises éthiques et responsables.
Alors aujourd'hui, Catherine, si vous deviez faire le bilan de cette transition, de ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous pourriez dire aux autres entreprises pour qu'ils franchissent le pas comme vous, pour les convaincre?
Alors bien sûr, c'est allez-y. Mais pourquoi? Déjà, il y a un retour sur investissement financier puisque on consomme moins. Donc, l'investissement, il est en partie financé par toutes ces économies qu'on fait.
Oui.
Et puis, je pense que vis-à-vis de nos clients, notamment grande distribution, ils sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits, oui, mais également la manière dont les entreprises produisent. Pour le moment, on a des certifications qui sont très qualitées, mais je suis persuadée que d'ici peu, on va s'orienter aussi vers les bonnes pratiques en matière environnementale. Donc, je pense que on n'a pas le choix. Et puis, c'est surtout, le juge de paix, c'est son consommateur. Donc, si on veut continuer à vendre des produits, il faut qu'ils soient bons pour l'environnement. Enfin, je pense que là, il n'y a pas de question à se poser.
Non, on est bien d'accord. Donc, merci Catherine pour cette phrase de conclusion. Effectivement, vous avez raison de conseiller les autres entreprises de prendre le même chemin que vous concernant la transition énergétique et écologique. Merci à vous d'être venu témoigner de votre expérience. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas surtout à partager ce podcast et ces expériences et surtout, engagez-vous, vous aussi, la transition énergétique et écologique, c'est possible aussi dans votre entreprise. Je vous dis à très bientôt. Catherine Petitjean, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Laure et au revoir.
À bientôt.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.